notre Père, notre Dieu, pour ton amour, ta grâce envers chacun de nous. Merci pour les instants que nous allons passer devant toi. Merci pour l'Esprit Saint qui va nous guider. Nous te recommandons ce moment. Nous prions pour que toi seul nous guide par ton esprit et tu nous instruises. Que ta grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Merci beaucoup, pasteur. Frères et sœurs, nous prenons notre Bible pour lire au septième chapitre de la lettre de Paul aux Romains. Romains, chapitre 7. Nous lisons les 13 premiers versets. Romains, chapitre 7, versets 1 à 7. Oui. Pouvons-nous demander à Sandra, à notre fille Sandra, de nous lire ce passage?
Oui, papa, pas de problème. Romains 7, de 1 à 13, c'est ça? Oui. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devint la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous étiez morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisant porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la terre, de la lettre plutôt. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes, non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoitiras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produit en moi par les condamnements de toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans la loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui menait à la vie se trouva pour moi mené à la mort, car le péché, profitant de l'occasion, me séduisait par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes, non. Mais le péché, enfin de se manifester en étant que péché est produit en moi la mort, parce qu'il est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurement péché. Amen.
Amen. Ainsi, la loi elle-même est sainte, et le commandement est saint, juste, et bon. Bien-aimés, nous avons à méditer ensemble un texte qui nous parle de la loi. Qui nous parle de la loi, nous avons déjà vu la place de la loi dans la marche du croyant. Quand je dis croyant, je vois aussi les juifs et aussi les chrétiens, parce que nous avons le même commandement. Nous avons le même Dieu. Aujourd'hui, on veut nous montrer la limite de celui qui doit obéir à la loi. Quand nous prenons le premier verset, la dernière partie, on nous dit la loi n'a autorité sur un homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Et pour montrer cela, pour démontrer cela, l'apôtre prend l'exemple d'un couple marié. Et cet exemple que l'apôtre a pris nous éclaire, nous éclaire parce que il a pris un exemple que beaucoup de gens ont vécu ou vivent. Donc, c'est un exemple qui est tiré de la vie courante. Qui est tiré de la vie courante. Donc, je pense que je peux abréger ce que je dois dire pour nous permettre d'entrer dans le texte lui-même et voir comment l'apôtre nous explique ce que nous allons voir ce soir. Le texte que nous avons a deux questions. La question numéro 2 sur la Trinité et la question numéro 7 sur la vérité que Dieu nous révèle dans ces passages. Lorsque nous les lisons calmement, nous allons voir, il y a des vérités. Merci. Bon, je m'arrête ici et je vous donne la parole, comme nous avons l'habitude de faire. On parle brièvement pour permettre aux autres de parler et nous continuons. Nous pouvons revenir autant de fois pourvu que nous soyons dans le texte, ce qui est bien, être dans le texte. Merci, vous avez la parole, bien-aimé. Bon, je vais commencer au verset premier. Frères et sœurs sont aussi là. Vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. Ça, c'est la façon dont l'apôtre introduit notre passage. Il dit que ce que je vais dire, vous êtes au courant de cela. parce que vous connaissez la loi. La loi n'a autorité sur un homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Aussi longtemps qu'il vit, ou bien qu'elle vit, la loi a des autorités. Et lorsque la personne est morte, elle est partie. Elle est partie et la loi ne peut pas exercer son autorité sur la mort, sur la personne qui est partie. Alors, il lui donne un exemple. Alors, je vous donne la parole pour nous lire cet exemple. On va, comme nous avons dit, verset par verset, afin que nous saisissions l'essentiel de l'enseignement de ce soir. L'idée que nous allons voir ce soir, c'est que la loi n'a autorité sur un homme qu'aussi aussi longtemps que l'homme vit. Voilà. Vous avez la parole, bien-aimé.
Nous donnons la parole à Maman Pétronelle, s'il vous plaît.
Merci, Sandra. Je peux prendre le deuxième verset. L'exemple qui nous est donné par l'apôtre. Il nous donne l'exemple en disant ceci. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que ce mari vit, tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui.
Mm-hmm.
Je peux continuer parce que c'est la même idée pour qu'il soit complet. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, alors que son mari est vivant, on l'appellera adultère.
Mm-hmm.
Mais si son mari meurt, elle est libre par rapport à la loi, de sorte qu'elle peut devenir la femme d'un autre homme sans être adultère. Et cet exemple nous donne un peu la précision de la limite. Quand la femme est encore dans son foyer avec son mari qui est vivant, et quand elle va à côté avec un autre, à ce moment-là, cette femme commet l'adultère. C'est ce que je comprends dans cet exemple. Donc, l'adultère est que tu trompes ton mari qui est encore vivant et tu vas aller avec un autre. À ce moment-là, tu commets l'adultère. Mais si ton mari est déjà mort, là, à ce moment-là, tu peux aller avec un autre et un autre homme, mais on ne te condamnera pas comme quelqu'un qui commet l'adultère. C'est ce que j'ai compris dans cet exemple, que l'adultère est vraiment quand tu es encore en couple, bien connu avec un tel. Et à ce moment-là, l'adultère, c'est un péché, c'est grave. Voilà. La limite, elle est là. Je ne peux pas aller encore plus loin. Merci, mes bien-aimés. Ça m'éclaire quand même, parce que beaucoup, beaucoup de cas comme ça se trouvent dans nos pays et on confond beaucoup de choses.
C'est ça.
Merci.
Merci beaucoup. Ce que l'apôtre dit ici pour la femme est aussi vrai pour l'homme.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que selon l'exemple, quand le mari meurt, la femme est libre, elle peut se remarier.
C'est ça.
La même chose, quand la femme meurt, le mari peut se remarier.
Mm.
Voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais.
Mon frère, je voulais aussi revenir sur ce que vous venez de dire.
Oui.
Qui a lieu.
Mm-hmm.
Je voulais préciser aussi que la femme, si le mari est mort, comme si la femme, son épouse est mort. Je ne vais pas commencer avec d'autres femmes non plus pour que je suis libre. C'est pas ça. Les cas qu'on nous donne, ils parlent de la mort et de réconciliage. Je crois que nous pouvons aussi préciser de sa demande aussi de précision. Sinon, nous pouvons peut-être trouver des gens qui vivent dans des situations comme ça. Mais qui vivent de débauche conduite et justifier que ils sont libres. Je vois aussi comme ajoute dans ce que vous deux vous avez dit. Merci.
Mmh. Oui, oui. Le remariage. C'est ce que, disons, l'apôtre envisage ici, c'est-à-dire que la femme qui est restée, selon l'exemple, peut se remarier.
Mm.
Et elle ne peut pas, parce que le mari est mort, et elle peut faire le tour. Parce que le mari est mort.
Mm-hmm.
Oui, oui. La même chose, il faut toujours voir les deux côtés. Le mari qui est resté ne peut pas faire le tour parce que en faisant le tour, il fait la débauche.
Exactement.
Oui, la même chose pour la femme. Si elle fait le tour des hommes parce que son mari est mort, elle fait la débauche. Mais ce qui est envisagé dans le texte, c'est le remariage. Si la femme qui est restée se remarie, on ne peut pas parler de la débauche.
Amen.
Amen. Merci. Amen. Merci.
S'il vous plaît, papa, il y avait trois mains qui étaient levées.
Oui.
Maman Rose, maman Christine et papa José de Paris. Nous donnons la parole maintenant à maman Rose.
Oui, maman Rose, maman Christine, papa José de Paris. Nous suivons cet ordre-là. Merci. Merci beaucoup, Sandra.
Maman Rose.
Maman Rose. Maman Rose. Oui. Notre sœur est tombée. Elle va revenir. Nous donnons la parole à maman Christine.
Oui, papa, je sais que... excusez-moi, j'ai une petite question. C'est pour expliquer un peu ces deux versets. Nous avons parlé du mari qui est mort ou de la femme qui est morte et le frère et la sœur sont dégagés. Ils peuvent se remarier. Mais qu'en est-il, par exemple, si le mari dit à la femme, « Je ne t'aime plus, fais tes valises et va-t'en dans ta famille. Je n'ai plus besoin de toi, je ne t'aime plus. » Et la femme part dans sa famille, elle tombe sur un autre homme, elle se marie. Est-ce que c'est la même chose ou bien c'est différent? Parce qu'il est dit du vivant de son mari. Son mari là est vivant. Il marche à fait. Je pars chez nous, je me remarie. Est-ce que c'est bien ou bien c'est mauvais? Ça, c'est ma question. Bon. Après, je peux intervenir dans le...
Oui, l'exemple là, c'est sur le divorce. Oui, mais ici, c'est le veuvage.
Ok, ok. Merci, papa. Je
comprends. Ok. Merci, merci beaucoup.
Oui, je voulais intervenir au verset 4, bien aimé, pour dire que Paul est en train de faire la comparaison. Il a utilisé cet exemple de la vie courante, comme papa l'avait dit dans l'introduction, pour nous éclairer un peu. Et comme nous avons vu hier, il y avait deux camps. Il y avait le camp où la loi régnait, et par la loi, nous avons vu qu'il y avait le péché. Il y avait l'autre camp où la parole de Dieu régnait, l'Esprit de Dieu régnait. Et ce que nous faisons, c'était pour nous amener à la vie éternelle, parce que c'est ça notre finalité. Et ici, nous voyons encore une fois deux groupes. Il y a ce groupe qui est encore sous la loi, et nous pouvons dire que le groupe de la femme mariée, mariée à la loi, qui obéit à la loi, qui vit sous la domination de la loi, et qui doit faire tout ce que la loi lui demande de faire, autrement elle serait condamnée, condamnée comme une adultère, donc comme une pécheresse. Et au verset 4, on compare maintenant le groupe de gens dont le mari est mort, donc la loi est morte. Ces gens-là sont dégagés, ils sont maintenant sous une autre loi, la loi de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Et ces gens-là sont vraiment deux camps opposés, et nous, nous faisons partie du camp des veuves ou des veufs, dont le mari qui était la loi, le premier mari est mort. Nous avons maintenant le deuxième mari qui est la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je peux dire que vraiment, nous sommes le groupe le plus heureux du monde, et nous devons porter de bons fruits, le fruit des gens qui sont ressuscités, qui sont morts à la loi et qui sont ressuscités dans une autre nouvelle loi avec Jésus-Christ. Donc, c'est ça que je voulais faire un peu ce parallèle, bien-aimé. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre sœur. Je relis la dernière partie du verset, du verset 4. Ou bien, c'est là où commence ainsi. Ainsi, vous appartenez maintenant à un autre, c'est-à-dire à celui qui a été ramené d'entre le mort. C'est bien le Seigneur Jésus. Nous appartenons maintenant à un autre, c'est-à-dire à celui qui a été ramené d'entre le mort. Et pourquoi? Afin que nous produisions ce qui est agréable à Dieu.
Alléluia.
Voilà. Oui. Nous appartenons à Jésus-Christ afin que nous produisions ce qui est agréable à Dieu.
Amen.
C'est très important pour les chrétiens de savoir que j'appartiens à Christ. Ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour produire ce qui est agréable à notre Dieu.
Amen.
Voilà. Merci, ma sœur. Oui. Papa José?
Merci, pasteur, mais justement, nous avons le même esprit parce que les interventions qui sont passées, ils sont ce que j'allais dire.
Oh, merci.
On n'avait pas bien appuyé sur un point, mais par le pasteur Samuel et les autres, ils ont vraiment bien expliqué, bien appuyé.
Merci. Merci beaucoup, papa. Oui.
Oui, c'est maman, il y a le numéro, ça paraît seulement le numéro, je suis sûre que c'est maman Rose. Maman Rose? C'est un numéro qui apparaît, c'est difficile pour moi de connaître vraiment c'est qui à l'appareil, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter. Parce que vous demandez la main, c'est difficile à croire.
C'est le pasteur Salomon.
Ah, ok, merci beaucoup, papa. Parce que vous avez le même numéro avec une maman, là, je m'excuse, là, parce que votre téléphone fait des conflits, alors je devais vous mettre en mute et vous retourner pour que vous puissiez parler.
Oui. C'est papa Salomon?
Oui.
Bonjour.
Allô, oui.
Ok, tu as la parole.
Merci.
Non, mais c'est pour les versets 4, 3, 3, 4, c'est cet appui-là de mettre la main, de savoir combien le mariage est sacré.
Mm.
Et quand nous sommes vivants, nous devons beaucoup plus nous savoir que c'est à quelle mort qui doit nous séparer. Malgré les multitudes de situations qui peuvent traverser dans notre vie, mais nous savons que l'argent ne peut pas nous séparer, les choses de ce monde ne peuvent pas nous séparer. Même si nous avons des incompréhensions dans nos foyers, quelle seule chose, cette loi qui nous lie, ne peut que se séparer que par la mort. Mais aujourd'hui, il y a au contraire des choses qui se font sur un petit mot d'argent, sur les biens matériels, sur ces choses. Le couple, il y a une séparation. Or, la Bible nous dit que le mariage est sacré parce que Dieu a un regard sur cela. Alors, nous devons bien veiller que rien ne peut nous séparer que la mort. Merci.
Mm-hmm. Merci beaucoup, notre frère, pour souligner que là, seule la mort peut nous séparer. Merci beaucoup, Papa Salomon. Oui. OK. Nous passons. Oui. Au verset 5 ou un mot sur les versets déjà partagés?
Oui, papa, est-ce que je peux prendre le 5 encore, s'il vous plaît?
Oui, oui, tu peux.
Oui, le 5, je vois que c'est le juste le posé du 4, parce que le 4, nous avons fini par conclure que nous sommes passer de la mort à la vie, nous appartenons à celui qui est mort, qui était mort et qui est ressuscité, pour que nous puissions porter des fruits agréables à Dieu. Et le verset 5 nous dit le contraire, que quand nous étions dans la chair, les passions de péché dominaient sur nous, provoquaient en nous beaucoup de choses dans nos membres, et nous portions les fruits pour la mort. Donc ce sont deux camps adverses, comme je le disais. De l'autre côté, il y avait la chair qui amenait les passions, le péché, toutes ces choses-là, et cela nous amenait à la mort, tandis qu'aujourd'hui, parce que nous avons changé de camp, nous appartenons à celui qui était mort, à nos péchés, qui est ressuscité, nous sommes là pour produire de bons fruits. Donc, nous sommes vraiment tout à fait différents de ce que nous étions hier. Donc, c'est ce que j'ai pu réaliser. Donc, c'est le contraire du verset 4. Merci.
Oui, c'est le contraire du verset 4. Le verset 4 qui nous parlait de fruits, de produire des fruits qui sont agréables à Dieu. Oui, oui. Tandis que ce verset, pour ceux qui sont dans le monde, ce qu'ils font n'est pas agréable à Dieu. Merci. Bon, au verset 6, on nous dit, mais maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers, c'est-à-dire le péché. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité de l'Esprit Saint, et non plus à la façon ancienne, sous l'autorité de la loi écrite. Oui. Ici, au verset 6, on veut nous montrer le passé et le présent. Passé, c'est lorsque nous vivions dans le péché, avant de connaître le Seigneur. Le présent, c'est lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, et surtout lorsque nous nous trouvons sous l'autorité de l'Esprit Saint, alors nous faisons ce que l'Esprit nous donne, nous montre. Ouais, c'est ça, hein. Donc, on a ajouté un élément important, la direction du Saint-Esprit.
Amen.
Sous l'autorité du Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes conduits sous l'autorité du Saint-Esprit. Merci. Qui encore? Toujours là-bas? Ou bien on peut passer?
Papa,
oui.
C'est Papa Salomon qui veut de moi, qui veut parler.
Oui, Papa Salomon.
C'est le maître, verset 6. Maintenant, nous sommes dégagés de la loi. C'est le maintenant. Le maintenant qui est partout, c'est maintenant. Ce n'est pas les choses passées, mais c'est maintenant. Partout où nous passons, maintenant reste maintenant. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit dans tous les temps, c'est maintenant. C'est au présent que nous devons obéir. Parce que la fierté, la joie d'une femme dans son mariage, c'est l'obéissance à son mari. Et que si nous sommes l'Église, et maintenant l'Église, l'épouse de Christ, et l'épouse doit faire la joie de son mari, c'est-à-dire l'obéissance de tout ce que le mari l'impose. Et ce mari qui est ressuscité. Et nous, l'Église, son mari qui est le Christ, est ressuscité. Il n'est pas mort comme les hommes, comme nous. Nous mourons, c'est fini. Pas, mais lui, il est sorti du tombeau, il vit. Alors, notre vie avec lui, c'est toujours l'obéissance en lui, parce que pour faire la joie de son époux. C'est ça. Et que nous devons vraiment obéir en totalité, comme on dit, conduit par l'Esprit, et nous devons obéir à celui, à tous les commandements, à toutes les lois, qui doit nous progresser pour appeler l'amour, pour attirer l'amour de son mari, c'est obéir à ce qu'il te dit. Si nous obéissons à Christ, notre couple, notre relation sera parfaite et sera, ça va bien compter. Et ça va bien marcher.
Merci beaucoup, pasteur, pour ce partage, le partage du verset 6. Merci. On peut passer au verset 7.
Papa, j'ai une question, s'il vous plaît.
Oui.
Oui. Quand on parle du verset 8, vers la fin là, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Et le péché, c'est plutôt, verset 7 plutôt, que dirons-nous donc, la loi est-elle péché, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Alors ma question est celle-ci, les commandements ou la loi est venue par Moïse, n'est-ce pas? Mais tout ce temps-là avant Moïse, est-ce que je peux dire que les gens ne commettaient pas de péché comme il n'y avait pas de loi? Je ne sais pas.
Avant Moïse?
Oui, parce que c'est à Moïse qu'on avait remis les 10 commandements, n'est-ce pas?
C'est ça.
La table de la loi, oui. Et parce que ici, il dit que car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Alors cela veut dire que c'est la loi qui est venue avec le péché ou bien comment? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre là.
OK. Merci. Est-ce que nous avons un frère ou une sœur qui veut répondre à la question de notre sœur sur la loi et sur la loi et le péché d'après le 7e verset? OK, nous pouvons aller pas à pas sur le verset et nous allons essayer de comprendre ce que ce verset nous dit.
S'il vous plaît, papa.
Oui.
Oui, papa Salomon veut encore parler.
Oui, papa, est-ce que tu veux répondre à la question de la sœur ou tu veux prendre un autre verset?
Non, c'est le même. Je veux répondre un peu là.
OK. Merci. Tu peux aller.
Donc, convoitise, d'abord, c'est ce point-là de convoitise qu'on a souligné. Vous savez, tous les péchés ont commencé par la convoitise. La convoitise, c'est l'élément, c'est la part, ou alors c'est le piège du diable, surtout sur l'aspect de la convoitise. Les yeux, la convoitise, c'est toujours par convoiter avant de commettre l'acte ou de tuer ou alors de voler ou de faire ça. Ça commence toujours, surtout par la convoitise. Adam est tombé par la convoitise de l'arbre qui était au jardin d'Éden. Et Jésus a été tenté par le diable, par aussi, il voulait le présenter, le pain, le pierre, les pierres et tout ça. C'est toujours sur l'aspect de la convoitise. Et la convoitise, c'est quelque chose qui attire, qui fait tomber facilement les hommes ou les femmes. C'est pourquoi le péché qui est en nous, c'est jamais qu'on dit le péché. Donc, par la loi, et s'il y a la loi nous aide à sortir sur l'aspect de convoitise. Et sans la loi, il n'y a pas aussi de la justice. La justice, quand il y a la loi. Et la loi nous aide à sortir dans ces aspects-là, de la convoitise, du péché et des choses qui se font dans la chose. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde et ni les choses qui sont dans le monde. C'est à cause de l'attirance de ces choses qui nous entraîne facilement à pécher. Merci.
Oui. Ma sœur, est-ce que tu vois un peu ou tu aimerais que un autre frère ou une autre sœur dise un mot parce que tu as posé la question?
Encore un peu.
Oui.
J'ai compris un peu, mais si quelqu'un peut ajouter encore autre chose, ça serait mieux.
Ah oui, si quelqu'un peut ajouter quelque chose. Papa Samuel, est-ce que tu as quelque chose à dire?
Papa, le verset 7 nous indique ici, nous montre la loi comme un pédagogue. La loi joue le rôle de l'enseignant. Nous regardons bien dans le texte ici. Parce que c'est par la loi que nous connaissons que ça c'est bien, ça c'est mauvais. C'est ce que l'apôtre veut aussi montrer. C'est la raison pour laquelle.
Allô?
Alors, au pied, la réponse est non. Donc, on ne partait pas au péché. Mais, j'ai connu le péché seulement par la loi. Donc, la loi, c'est comme un pédagogue, un enseignant. Si Dieu avait donné la loi, c'est pour qu'elle puisse montrer à son peuple comment on devait se conduire. Qu'est-ce qu'il devait, comment est-ce qu'on pouvait plaire à Dieu? C'est en obéissant à la loi que Dieu avait donné pour plaire à Dieu. Ainsi, la loi, telle, comme nous venons de dire, la loi se comporte ici comme un pédagogue, un enseignant. C'est par la loi que nous connaissons que ça c'est un péché, ça c'est mauvais. Et c'est la raison pour laquelle on voit dans le texte, en effet, je ne pouvais pas connaître les désirs mauvais sans ce commandement de la loi. Vous voyez? Sinon, on vivait comme mais parce que la loi est là, la loi me montre, alors ça sont des désirs mauvais, ça c'est le péché. Voilà le rôle de la loi. Et c'est pas la loi, donc c'est la raison pour laquelle Paul termine par dire tu n'auras pas de désirs mauvais. Donc ici on se réfère, n'est-ce pas, à Exode chapitre 20, verset 17, qui donne cette loi-là. Donc c'est pour montrer. La loi est un pédagogue, un enseignant pour nous. Donc la loi ne nous montre, c'est pour dire que même ceux qui ont vécu avant, nous avons déjà dit montré que si on ne connaît pas la loi, si on ne vit pas selon la parole de Dieu, si on ne connaît pas la parole de Dieu, mais Dieu a mis dans notre cœur la conscience du bien et du mal.
Voilà.
Donc, on n'a pas vécu sans connaître que c'est mauvais, c'est pas du non. On sait. Tout homme, Dieu a mis quelque chose dans nos cœurs pour que nous puissions savoir le bien et le mal, discerner le bien et le mal. Mais si la loi est donnée, pour qu'il puisse se conduire selon ce que Dieu désirait ou ce que Dieu demande à chaque homme, comment l'homme devait vivre. Merci beaucoup.
Ok. Il y a le passé et le présent. Le passé, c'est avant Moïse. Depuis Adam, là, jusqu'à Moïse, Dieu n'avait pas encore donné une loi écrite. Mais les gens vivaient avec ce que le frère vient de dire là-bas, la conscience que Dieu a mise dans notre cœur. Et ça nous conduisait comme ça, de cette façon-là. Mais avec Moïse, l'arrivée de la loi, maintenant on voit clairement que voler, Dieu n'aimait pas, tuer, Dieu n'aimait pas, mentir, Dieu n'aimait pas, mais avant, on avait ça dans le cœur, mais pas avec beaucoup de clarté. C'est pourquoi le frère pasteur parle de pédagogue.
C'est ça.
Oui. Donc, les gens qui étaient là, avant, il savait que, ce que j'ai fait, en tout cas, ce n'est pas bien parce que depuis que j'ai fait cette histoire, je ne dors pas bien. Bon, on ne parle pas de péché parce que le mot est venu après dans le sens que si tu fais ça, tu as mal agi. Clairement, on voit que mentir, c'est mauvais, ainsi de suite. Mais la notion que si je mens, je mal fais, était dans le cœur, et avant. Oui, mais Moïse, Dieu lui a donné les deux tablettes, et Dieu a écrit, non, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça, faites ça. Ah, ce que nous faisions avant, c'était... Ah, nous voyons maintenant. Oui. Alors, l'apôtre veut maintenant dire, bon, c'est que avec l'arrivée de la loi, nous avons le péché. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que la loi a amené le péché. Non. Non. Ok. Merci. Merci beaucoup. Nous continuons au verset 8. Le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement pour produire en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est chose morte. Sans la loi, le péché est chose morte. Autrefois, sans la loi, j'étais vivant, mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie et moi je suis mort. Le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé dans mon cas conduit à la mort. C'est toujours ces développements que l'apôtre continue. C'est ça. Oui, quelqu'un d'autre veut continuer ou veut avoir un éclaircissement? Alors, on peut continuer au verset 10. Et moi, je suis mort. Le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé dans mon cas, conduire à la mort, car le péché a saisi l'occasion, il m'a trompé au moyen du commandement, et par lui, il m'a fait mourir. Il m'a fait mourir. Ok.
S'il vous plaît, papa.
Oui.
Nous donnons la parole à papa Salomon.
Oui, Salomon, mon frère.
Oui. La loi, elle est sainte, elle est tout ça, mais elle est péché quand nous le commettons, quand nous pratiquons.
Mm.
Par exemple, quand nous voyons la loi est écrite, ne tuez pas.
Mm.
Ça, tu le vois. Mais quand tu prends l'acte de tuer, et là maintenant, la loi t'amène à la mort parce que tu as pratiqué. Quand tu es là, on est condamné. Mais en lisant, en voyant, en observant, ce sont des faits de position comme sur la route. Nous passons sur la route, il y a des codes de la route. Ces codes-là sont là pour nous, pour savoir, pour bien conduire. Mais quand vous brisez cela, c'est là où ça devient infraction. Mais en le voyant, ce n'est pas une infraction. Arrêtez obéissant de tout ça. Alors, c'est comme ça, comme la mort. La loi nous conduit, m'a conduit, m'a tué. Comment? Parce que nous avions pratiqué et nous avions fait cela. Et comme la Bible dit, le salaire de la mort, du péché, c'est la mort. Et justement, ça va de l'autre côté. Quand Adam voyait l'arbre, il voyait ce que Dieu l'a dit. Il passait de l'autre côté, il ne le faisait pas. Mais quand ils ont fait, cela nous conduit à la mort. La pratique de la loi, la pratique de la chose que Dieu a défendu, le commandement, de faillir à ça, c'est ça que ça devient le péché. Le péché, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on parle, qui n'est pas agréable à Dieu. Mais quand en voyant la chose comme ça, nous n'avons pas, là, nous avons la vie, quand nous pratiquons de ne pas faire. Mais quand on le fait, on est vraiment tombé dans la mort. Et là, on est mort dans le péché à cause de la loi, parce que nous n'avions pas fait ce que Dieu nous a dit. Voilà.
Merci beaucoup, pasteur. Oui, il nous reste, disons que ce que le frère a dit, c'est à partir du verset 12. Alors, si je lis les 12 et 13, « Ainsi, la loi elle-même est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. » Puisque c'est Dieu qui a donné, il ne peut pas donner quelque chose de mauvais. Voilà. Alors, ce qui est bon est devenu alors une cause de mort pour moi, certainement pas. C'est le péché qui en a été la cause. Oui. Il a fait apparaître ainsi sa véritable nature de péché. Il a utilisé ce qui est bon pour causer sa mort. Et voilà comment le péché est devenu un moyen, au moyen du commandement, plus gravement péché que jamais. C'est-à-dire que le péché qui était dans l'homme, parce que l'homme a toujours eu le péché, bon, il connaît la loi que Dieu donne. Cette loi est parfaite. Quand Dieu nous dit, ne faites pas ceci, c'est-à-dire que il ne veut pas que nous allions contre sa volonté. Dieu n'aime pas le meurtre, Dieu n'aime pas le vol. Alors, moi je ne vole pas, comme je ne vole pas, je n'offense pas mon Dieu. Alors maintenant, si on fait le contraire, que voler ce n'est pas une bonne chose, et vous volez, alors là, vous faites le contraire de ce que Dieu dit. Et ça devient une condamnation. Voilà. Donc, ça devient un péché aux yeux de Dieu, puisque tu as fait ce que Dieu défend. Dieu empêche. Vous faites ça. Vous avez péché. J'ai péché. Si j'ai fait ce que Dieu a défendu de faire. Bon? Alors, nous pouvons... Oui, ma sœur? Il y a quelqu'un qui voulait parler?
Non, on disait amen à ce que vous venez de dire, papa.
Ah, ok, merci. Bien-aimés, nous avons vu aujourd'hui la question de la loi par rapport au péché. La loi n'a autorité sur un homme qu'aussi longtemps que l'homme vit. L'apôtre prend l'exemple d'un couple. Un couple dont le mari est mort. La femme est restée. La femme, maintenant, peut se remarier. Et quand elle se remarie, on ne peut pas dire que elle a commis l'adultère. La femme mariée commet l'adultère lorsque son mari est vivant. La même chose, le mari commet l'adultère lorsque sa femme est vivante. Mais si sa femme n'est pas là, alors on ne peut pas donc parler de l'adultère dans ces cas-là. Ça, c'est sur le plan social, sur le plan humain, on prend l'exemple de mariage. Maintenant, sur le plan spirituel, avant le Seigneur, avant que nous connaissions le Seigneur, nous vivions dans le péché. Maintenant que nous connaissons le Seigneur, nous sommes unis à lui. Pourquoi? Pour que nous puissions produire des œuvres agréables à notre Dieu. Donc, le fait d'être unis à Christ, c'est pour que nous produisions de bons fruits. Alors, maintenant, notre vie est entre les mains du Seigneur et nous continuons à faire ce qu'il nous demande. C'est la grâce à l'action du Saint-Esprit, ou bien sous la direction du Saint-Esprit, nous faisons ce que Dieu veut. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Par nous-mêmes, non. Par nous-mêmes, non. Mais notre force est en Christ, grâce à l'action du Saint-Esprit en nous. Voilà, ça c'est l'idée générale. Donc, la loi ou bien le commandement que Dieu a donné en soi ne sont pas mauvais. Puisque Dieu ne peut pas nous donner quelque chose de mauvais. La loi est sainte. Le commandement est saint. Il est juste. Il est parfait. Parce que c'est donné par Dieu. Mais, lorsque nous péchons sur ou bien contre ce que Dieu nous a donné, alors là, c'est nous sommes sortis et Dieu nous condamne à ce moment-là. Alors, on peut dire que la loi nous aide Il est un pédagogue, c'est ce que nous trouvons dans Galates, si un frère peut retrouver facilement cela, mais c'est dans Galates que l'apôtre parle de la loi comme étant un pédagogue. Nous avons tous été enseignés par nos maîtres. Le maître était là pour nous diriger. Faites ceci, non, il ne faut pas faire cela, ainsi de suite. C'est ça le travail de la loi pour nous. Oui. Et Dieu qui nous a donné cela n'a pas mal fait. Il a donné cela pour que nous fassions ce qu'il veut. Mais le péché qui est en nous ne veut pas que nous suivions ce que Dieu nous demande. Voilà. Mais la loi en soi n'est pas une mauvaise chose. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à obéir à la loi de Dieu. Oui, un frère voulait nous donner le passage de Galates. Non. Ok. Oui, c'est Galates 2. Oui. Ok. Bon, nous donnons le passage de demain. Demain, c'est vendredi. Nous lisons à partir du verset 14, Romains chapitre 7, verset 14 à 25. Ça, c'est pour demain. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Non.
Pour le passage de Galates, c'est Galates 3, 19.
Oui, c'est 3. Oui, oui, merci. Ce n'est pas 2, mais c'est 3. Galates 3, verset 19. Oui. Quel a donc été le rôle de la loi? Elle a été ajoutée pour faire connaître les actions contraires à la volonté de Dieu et cela jusqu'à ce que viennent les descendants d'Abraham pour qui la promesse avait été faite. Cette loi a été promulguée par les anges, ainsi de suite. Oui. Ici, on ne parle pas de pédagogue dans cette version, mais second nous parle de pédagogue. Ah. Ok. Bon. C'est Papa Samuel qui a prié. Nous donnons à une sœur la prière finale. Et n'oubliez pas le camp biblique, bien-aimé. C'est très important. Oui. Est-ce que maman Claudine est là?
Non.
Ok. Maman Christine, si tu peux prier très brièvement en mentionnant aussi le camp biblique. Merci.
Merci. Bien-aimé, notre Père Céleste, nous voici bien rassasiés. Tu nous as parlé, Seigneur, des choses profondes. Nous sommes un peuple le plus heureux du monde parce que nous t'avons comme Seigneur, nous t'avons comme époux. Et toi, tu es venu avec la grâce, tu as couvert tous nos péchés, tu les as jetés au loin. Nous sommes devenus de nouvelles créatures devant toi, propres à produire de bonnes œuvres, à porter de bons fruits qui te sont agréables. Aide-nous par la puissance du Saint-Esprit à maintenir cette position, à nous tenir toujours fermes, Seigneur, à prendre des décisions, Père éternel, pour éviter tout ce qui peut nous induire en erreur, tout ce qui peut nous pousser encore à regarder en arrière, c'est-à-dire de l'autre côté, là où il y a le péché et la mort. Merci Seigneur pour cette grâce, merci pour cette promesse Seigneur de la vie éternelle que tu nous as faite à travers ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et maintenant Père que nous avons changé cette parole, nous voulons Seigneur te bénir pour cela. Te bénir Seigneur pour tous les bien-aimés qui avaient mis tous les côtés, qui ont compris l'importance de cette réunion de chaque soir, que tu puisses visiter chacun Seigneur, de chacun en ce qui le concerne. Les bien-aimés qui n'ont pas eu Seigneur le temps de se lier, se connecter à nous.
qu'il soit visité aussi là où ils sont, Seigneur. Les bien-aimés qui vont continuer la journée de l'autre côté de l'Atlantique sont encore avec eux, et que le même Saint-Esprit qui a été avec nous ce soir soit aussi avec eux afin de leur révéler les vérités qui sont cachées dans ta parole. Seigneur, nous n'oublions pas le camp biblique qui permettra que nous puissions nous voir face à face avant de nous rencontrer dans les airs avec toi. Permets, Seigneur, je t'en supplie, que ce camp soit vraiment un succès, parce que c'est pour toi que nous le faisons. C'est pour ton honneur et ta gloire, Seigneur, que nous le faisons. Aide-nous, Seigneur. Aide les bien-aimés qui ont la grande charge d'organiser tout, Seigneur. Bénis tous les bien-aimés qui ont la bonne volonté, Seigneur, de contribuer d'une manière ou d'une autre. Et tous ceux qui ont décidé de participer, que nous puissions être tous, Seigneur, sous ta garde. Et que tout ce qui va se passer, cela, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom, car nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen.